Vous êtes sur RTL.
RTL. 22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau temps d'échange autour de votre vie. Avant ça, je voulais vous dire un petit mot de notre soirée d'hier ensemble. Comme souvent, j'ai été touchée par le courage qu'ont eu Mia, Catherine et Frédéric pour nous parler de sujets très intimes. Avoir ce courage permet d'aller au cœur de la question pour essayer d'en desserrer le nœud. Et justement, ce qui m'a frappée aussi dans chacun de leurs témoignages très riches, c'est que beaucoup de difficultés étaient nouées ensemble. Très souvent, quand un être humain souffre, les causes et les conséquences s'enchaînent dans le temps. Après quelques années, tous les fils semblent mêlés et on ne sait plus comment s'en sortir. C'est là que parler est si utile. Parler à quelqu'un qui va tirer les fils, avec bienveillance, mais aussi avec méthode, jusqu'à trouver le nœud central. Et à cet endroit, vous avez toujours le pouvoir de faire quelque chose et d'enclencher ensuite un cercle vertueux pour tout le reste. En somme, nous avons tous à démêler notre nœud. Je suis Sabine Calégari, psychanalyste, et je suis là pour vous, jusqu'à minuit, au 09 69 39 10 11. Sarah et Colin sont prêts à vous recevoir au standard, ils vous attendent. Pour réagir, soutenir, conseiller, c'est par SMS 64 900 code RTL ou sur la page Facebook RTL-Parlons-Nous. Avec Marc Bisset à la réalisation, nous pouvons commencer. Bonsoir Didier.
Bonsoir Sabine.
Et bien, merci, je vous beaucoup. Écoute.
Merci pour vos très belles introductions tous les soirs.
Ah, merci Didier. Voilà, j'essaie de trouver des sujets différents selon l'humeur du jour, selon ce qu'on a entendu la veille.
Voilà, c'est, ça nous permet de de vous accueillir chez nous. RTL est une famille.
C'est vrai. Vous savez que c'est exactement l'esprit qui règne à l'intérieur aussi, entre nous, entre les animateurs. C'est vraiment très agréable d'y travailler.
Oui. Écoutez, c'est pas perceptible, mais je suis complètement broyé.
Ah.
Alors, je vous explique.
Oui.
À vrai dire, tout s'est écroulé en une journée il y a une vingtaine d'années.
Oui.
Je suis professeur titulaire, donc fonctionnaire titulaire.
Oui.
Collège-lycée.
Oui.
Et dans la même journée, c'était après la phase, vous savez, du mouvement d'affectation des maîtres.
Oui. Alors, oui, il y avait eu des turbulences à ce moment-là.
Pardon, madame.
Il y avait eu des turbulences à ce moment-là.
Oui, mais non, ça peut se passer très bien.
Oui.
Je n'ai pas eu ma mutation, ce n'était pas grave. Mais au lieu d'être maintenu sur mon poste, j'ai subi une perte d'emploi.
Comment c'est possible, ça? Comment c'est possible?
Par la défaillance d'un agent.
Ah, il y a eu une erreur administrative autour de votre...
J'ai cru pendant quelques heures, parce que j'ai un nom qui est très commun.
Oui.
Et j'ai cru, je me suis demandé si un autre professeur d'une autre région ou de la même région n'était pas décédé. Parce que le document qui met fin à mes fonctions, le décret, c'est ce qu'on envoie aux familles, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, oui. Donc, c'est assez surréaliste. Donc, la mutation ne s'est pas faite, c'était pas de votre fait.
Ah, mais la mutation, ça, c'était pas... J'avais accepté. Déjà, l'année précédente, j'avais pas eu... Il faut des priorités administratives pour obtenir sa mutation.
Oui.
Ce que je n'avais pas, c'est une mutation de confort, entre guillemets.
D'accord.
Et alors, le pire du pire, bien pire que ça, quelques heures plus tard, évidemment, j'ai couru au rectorat. On m'a orienté vers le social, le RSA, les ACDIC, comme le licenciement du privé. Et j'ai...
Donc, deuxième erreur.
Fait là-dedans pendant 15 ans.
Ça
parce
doit...
que c'est très difficile de s'en sortir.
C'est kafkaïen ce que vous nous dites.
Dans la même période, j'ai été aidant de mes parents,
oui.
Frappé par un vieillissement précoce.
Vos deux parents?
Mes deux parents, alors chacun leur tour. Mais ça s'est enchaîné, mon père avec une Parkinson agressive,
oui.
Ma mère avec le veuvage, dépression, et puis ensuite une leucémie médicamenteuse.
Ouf.
Et ça nous amène en 2015, j'ai voulu rebondir, mais j'étais tellement malade, dépression, j'ai raté une transaction dans ma région, dans mon département, et depuis l'été 2015, je suis à 300 km de chez moi, dans le F2 estival hérité de mes parents, où il n'allait que très peu, dans un océan de solitude, avec tous mes projets dans les tiroirs.
Oui.
Je suis, à vrai dire, confiné depuis l'été 2015. J'utilise le mot confiné parce que toutes les souffrances que j'entends chez vous et ailleurs par rapport au confinement, hélas, moi je le vis depuis 6 ans.
Donc vous dites que tout a commencé par cette erreur assez kafkaïenne, au fond, dans votre parcours de professeur.
C'est une faute professionnelle. Hein.
C'est, quand vous dites faute professionnelle, vous pensez qu'il y a quelque chose d'intentionnel?
Je ne sais pas. Enfin, j'en suis au 3e avocat hein, depuis l'été 2015.
Oui.
Et les 2 autres n'étaient pas compétents. Vous savez, c'est comme en médecine. Hein, si on va voir l'orthopédiste pour les amygdales, ça ira pas. Hein. Et là, c'est un avocat spécialisé en droit administratif extraordinaire.
Oui.
Et le pauvre, d'abord, on a eu la Covid, tout a été retardé. Comme il est très minutieux, très consciencieux, mais le pauvre, il est en arrêt maladie depuis le mois de février. Et moi, je me trouve sans revenu, sans argent. Le RSA, dans la région où je me suis retrouvé, le dossier a suivi. Alors ça, c'est une bonne chose pour le dossier.
Oui.
Il m'a été suspendu avec un argument imparable. On n'a pas tenu compte de votre statut de fonctionnaire, ni révoqué, ni démissionnaire. Mais je n'ai plus de revenus, plus d'argent, plus rien. J'ai épuisé toutes les économies familiales, les miennes.
Oui.
Et je suis... Alors, avec un avocat empêché, en arrêt de longue maladie, ça doit être grave parce que le bâtonnier concerné a pris les choses en main, me cherche un administrateur, mais là, c'est pas la trêve de Noël, c'est la trêve estivale.
Mmh.
J'ai les factures, je suis dans le surendettement. Enfin, les créanciers comprennent parce que j'ai un document écrit très très précieux. Il y a d'abord le document du département avec le RSA, puis surtout un recours amiable contre le rectorat concerné par l'avocat.
Oui.
Un document de 7 pages.
Oui, donc vous avez un document qui atteste une procédure en cours.
Une procédure en cours et interrompue. Et on m'a dit au greffe du tribunal administratif concerné que ça pourrait arriver au plus tard fin août, début septembre. Mais ça peut arriver maintenant. Hein.
Mais Didier, si on reprend le premier maillon de ce cauchemar, donc dans un premier temps, une mutation non obtenue, et vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est ça? Donc votre poste est pourvu. Et comment se fait-il qu'on ne vous ait pas trouvé un autre poste dans l'enseignement?
Parce que s'il y a eu une succession de fautes et d'erreurs, et une fois que j'étais dans le RSA, j'ai été entre guillemets sorti du circuit.
Et dans ces cas-là,
on n'a pas attribué les priorités administratives qu'on aurait dû m'attribuer comme aux agents dont le poste est supprimé. Ça, c'est fréquent, hein, ça arrive. Hein.
Oui.
Et dans ces cas-là,
Didier, vous avez un interlocuteur, quelqu'un à qui vous pouvez parler, ou ça se passe que par des envois de dossier? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous pouvez exposer le cas?
Si, mon avocat, mais le pauvre, il est malade.
Et tout au début, quand il y a eu ce problème sur votre poste, il n'y a personne avec qui vous avez pu parler. Donc vous êtes entré, ça je comprends, vous étiez dans le circuit fonctionnaire. Il y a eu quelque chose qui s'est... Il y a eu une sorte d'accident. Donc vous n'avez pas obtenu une mutation et vous n'avez pas pu récupérer votre poste. On n'a pas pu vous en donner un autre, c'est bien ça?
Non, parce que je n'avais rien d'autre comme interlocuteur que les assistantes sociales. Les assistantes sociales, c'est le département, et qui ne comprenaient strictement rien, parce que c'était des assistantes sociales pas bien formées, et qui ne comprenaient rien, qui voulaient me faire faire des stages de formation, d'animation de quartier, enfin, absolument sans rapport avec mon profil. Mais là, le pire ou le meilleur, c'est que je suis tout près du but. Le problème, c'est juillet-août, à quelques semaines près, enfin, je suis quelque part confiant et anéanti par le fait de cette solitude. Et vous savez, quand on est à 300 km de toute sa vie...
Oui, bien sûr, bien sûr.
J'ouvre une parenthèse intime. Moi, en dehors de la vie professionnelle, moi, il me manque, bien sûr, la famille. On est une grande famille. J'ai raté des confirmations, des communions, et puis il me manque au niveau des amis, c'est la paroisse.
Oui. Ben oui.
Et ça, c'est énorme pour moi.
Oui.
J'ai plus de vie paroissiale.
Et votre vie familiale, comment était-elle de quand vous enseignez?
Oh, mais avant, la maladie de mes parents, parce que tout ça, c'est... Et puis, j'ai des cousins qui ont aussi leurs parents malades, très malades. Vous savez, ça disloque un peu la vie de famille. Hein. Une cousinade était prévue pour 2015, elle est tombée à l'eau. Hein. Mais sinon, on se téléphone beaucoup. Hein.
Et vous n'aviez pas votre... Est-ce que vous avez des enfants, Didier? Est-ce que vous avez...
Non, heureusement que non. Non, 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 je suis célibataire. C'est la vie, c'est comme ça.
Oui, vous dites qu'aujourd'hui, si jamais vous aviez une charge de famille, ce serait plus terrible encore.
Ah ben oui, parce qu'on est responsable. Hein. Même quand ils ont 18, 25 ans, même en coloc avec des potes, comme ils disent... On est responsable. Hein,
et l'issue que peut avoir votre dossier, donc qu'est-ce qu'elle peut-elle être? Est-ce que c'est un rattrapage?
Pardon,
sur des...
Je me permets de vous interrompre. Ça, c'est pas grave du tout. J'ai un petit problème auditif.
Oui.
C'est pas la surdité, c'est du cérumen dans les oreilles. Alors, je n'entends pas toujours très bien.
Vous voulez que je parle un peu plus fort? Est-ce que là, c'est mieux?
Oui, très bien.
D'accord. Je vais rester bien en face du micro, voilà, pour que vous m'entendiez au mieux. Et. Quelle est l'issue que vous espérez pour le dossier? Est-ce que c'est une issue financière, mais aussi professionnelle, au sens où vous allez...
Oui, c'est les deux, parce que j'ai postulé... Je suis musicien, c'est ma spécialité.
Oui.
Et j'ai proposé un projet dans une collectivité de mon département, une veillée de musicale scolaire pour le mois de juin 2022.
Oui.
Ce qui me permettrait de devenir... Alors, non plus agent de l'État, mais agent territorial, professeur intervenant en milieu scolaire.
D'accord.
Et si ça marche, et ça je ne le saurais pas avant le 20 août, et toutes les affectations dans la fonction publique, on le sait 10 jours avant la rentrée, hein, c'est fréquent. Et pour moi, même admettons que dans le pire des cas, je n'ai pas la décision judiciaire administrative. Et l'argent qui va avec, entre 50 000 et 500 000 euros.
C'est ça.
Je pourrais au moins louer un appartement dans ma ville d'origine et redevenir propriétaire et habitant en résidence principale revenant complètement remis. Mais, alors ça c'est votre terrain, vous conseillez souvent un accompagnement psychologique.
Oui.
Avec mon médecin traitant, nous avons convenu de l'envisager, ce ne sera peut-être pas nécessaire, justement pour ma reconstruction. Parce que j'ai ce projet donc avec les élèves, et en même temps j'ai un autre projet musical d'orchestre qui me permettrait de reprendre ma carrière de violoniste.
Au départ, vous étiez professeur de musique il y a 20 ans quand se sont produits ces démêlés avec les mutations. Vous étiez professeur de musique à ce moment-là?
Oui, oui, oui.
D'accord.
Donc, et quelques années avant, j'étais professeur de violon en même temps dans un conservatoire. C'était difficile, hein, matériellement, au niveau de l'organisation. J'étais... Ah ben là, je ne risquais pas de m'ennuyer. Hein. Je peux vous dire que... Ah ça, non. Là, j'étais content d'avoir le dimanche après-midi tranquille. Oui. Et ce sera pareil hein, quand je. Mais je vous savez, quand on entre en scène, quand on est musicien, il y a le trac.
Oui.
Et les symptômes que j'ai aujourd'hui, c'est ceux du trac, hein, je vois bien. Mais je crois que je n'aurai pas le trac avec tout ce que j'ai subi pendant 20 ans. C'est pas possible.
Et dans l'intervalle, donc Didier, vous dites que vous étiez violoniste. Est-ce que vous avez pratiqué votre instrument?
Un peu, mais pas beaucoup, parce qu'il me faudrait. Et là où je me trouve, c'est pas possible, parce qu'ils ne prennent pas de nouveaux patients. Il me faudrait le kiné. Et avant le kiné, le médecin, un petit scanner du rachis, et le kiné pour la rééducation. J'ai des problèmes de dos, comme beaucoup de violonistes.
Oui.
Et puis ça remet en forme le kiné ou d'ailleurs le... Je cherche le nom.
L'ostéopathe peut-être L'ostéopathe
Voilà.
Oui.
Alors mon médecin n'est pas tellement pour. J'ai une cousine qui en a un, qui est excellent, mais comme elle me dit, certains sont excellents, d'autres c'est moins bien. Mais je ferai comme mon médecin. Et moi, le kiné, c'est formidable, le kiné.
Oui, si vous avez un praticien qui vous convient, vous le sentez parfaitement.
Et
vous,
mais oui,
d'autant
mais
que vous avez l'habitude.
C'est un de mes anciens élèves.
Oui.
Il est prêt à m'accueillir, absolument.
Oui. Si vous êtes violoniste, vous connaissez bien votre corps, enfin, ce dont vous avez besoin pour jouer, donc vous savez bien sentir si une pratique est bonne.
Je ferai quand même un bilan, peut-être prise de sang, la radio dans une clinique que je connais bien, près de chez moi, radio ou scanner, ça le médecin décidera. Et vous voyez, rien que de vous en parler, j'y suis déjà, moi, mais je suis d'une impatience. Et en plus, je sais que les jeunes, si dès les premières heures, on sait leur faire aimer leur chorale, c'est gagné pour l'année. Je vais même me permettre de vous confier le programme. Je voudrais leur faire chanter Jean-Jacques Goldman.
Ah, alors là, c'est qualité universelle. Personne ne peut dire que c'est autre chose que de la très bonne musique.
Ah, mais ça, c'est... D'ailleurs, ce qui me vaut un anxiolytique, quand vraiment je ne suis pas dépassé la dose, hein, bien sûr, c'est la grande partita pour violon avec la grande chaconne de Bach, le Gloria de Vivaldi, ou le concerto pour violon de Beethoven, ou bien le double album de Jean-Jacques Goldman. Ça, c'est mon dimanche soir, parce que c'est la journée la plus douloureuse. Et je suis comme Thomas Soto, d'ailleurs, qui nous a régalé. On a eu notre Jean-Jacques Goldman tous les jours. À ça, je suis comme Thomas Soto. Hein. À ça, Jean-Jacques Goldman, personnage préféré des Français.
C'est vrai. Didier, ce qui m'apparaît dans ce que vous dites, c'est que votre vocation musicale, votre désir pour la musique, semble absolument intact après 20 ans d'épreuve.
Intact. C'est le mot de mon médecin. Je lui ai posé la question au niveau, est-ce que j'y arriverai ? Il m'a dit, est-ce que vous savez nager ? On m'a dit, alors ça, c'est pas... Il me dit, vous êtes un mammifère, vous flottez. Vous savez marcher ? Bah oui, je suis très fatigué. Vous savez faire du vélo ? Oui. Et il m'a dit, le violon, c'est pareil, ça se perd pas. Au niveau neurologique, c'est intact. Pas le reste, il m'a dit, il faut bosser.
Oui, alors c'est l'occasion de faire un petit point sur notre fonctionnement neuronal. Effectivement, chaque fois que nous avons une tâche à accomplir, les neurones s'assemblent dans des configurations complexes pour pouvoir remplir cette tâche. Et plus nous investissons ces circuits neuronaux de notre attention, plus on focalise notre attention sur la tâche à accomplir, plus ces circuits neuronaux sont investis et plus ils se connectent rapidement et ils répondent vite. Donc effectivement, des circuits neuronaux ne se défont pas. En revanche, quand ils n'ont pas été investis donc de l'énergie de notre concentration pendant un temps, ils répondent beaucoup moins vite. Donc ils ont à se reconstituer. Mais on sait qu'au bout de 72 heures environ, quand on se concentre sur quelque chose, il y a un assemblage neuronal, des connexions se font et ça répond. Donc ça va en effet assez vite.
Qu'est-ce que vous m'encouragez ? Qu'est-ce que vous nous encouragez ?
Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre parce que ça ira à rebours de ce que vous soulignez tout à l'heure qui m'arrivait de conseiller un suivi psychologique. Dans votre cas, vous avez un désir tellement puissant pour la musique. On sent que vous êtes habité par ça, que la musique vous élance vers les élèves, vers le violon, vers les chorales. Est-ce que vous pensez avoir besoin d'un suivi psychologique quand vous êtes... Parce que là, vous êtes animé d'une flamme, vous êtes simplement empêché de la laisser se déployer pour des raisons pratiques, administratives même, qui ont des chances d'être levées. Si elles sont levées rapidement, comme vous l'espérez, est-ce que vous pensez que vous avez besoin de ce suivi psychologique ou que votre désir va se déployer et que l'énergie vitale reviendra très vite ?
Eh bien, je suis un peu de votre avis. Vous savez, j'ai une formule. Si j'apprenais, même en étant là où je me trouve, à 300 km, j'apprends que par courrier, par décret, que ma situation est réglée financièrement, je serais obligé, parce que ces traitements-là ne s'arrêtent pas du jour au lendemain, c'est pas le Doliprane, je serais obligé de mettre la boîte dans mon assiette. Pour ne pas l'oublier.
Oui. Mais oui, et ben, d'ailleurs, ce qui pose la question de la boîte en question, combien de temps vous allez en avoir besoin ?
Ah, pour l'instant, j'en ai absolument besoin.
Pour l'instant, oui, c'est un soutien pour vous emmener au bout de l'épreuve.
Ah oui. Et puis, j'espère que ça me fera fondre le ventre, parce que ça, de ce côté-là, bon, je suis pas obèse, hein, mais bon, j'ai un bon petit ventre, et c'est lié aux médicaments.
Vous avez pris des antidépresseurs, c'est ça ?
Non, anxiolytiques.
Ah, parce qu'en principe, les anxiolytiques, ça donne pas de prise de poids. C'est souvent les antidépresseurs qui donnent du poids.
Non, j'en ai eu, mais ça me réussit pas. Puis je trouve que ça me fait, comme on dit chez moi, perdre les pédales.
Alors c'est vrai, donc pour ceux qui nous écoutent, donc la différence, c'est pas la même famille. Donc l'antidépresseur, comme son nom l'indique, c'est une molécule qui sert à contrer la dépression, donc la plupart du temps une molécule psychostimulante. En revanche, l'anxiolytique, c'est l'anti-angoisse. Donc c'est plutôt sur les crises d'angoisse. Et j'imagine que
j'ai
pour
des crises d'angoisse.
Ben oui, c'est que j'entends votre voix, vous n'avez pas du tout une voix de quelqu'un de déprimé. Il y a beaucoup de vitalité dans votre manière de vous exprimer quand vous parler de votre goût pour la musique et de vos projets. En revanche, effectivement, avoir l'impression de vous heurter à quelque chose qui vous laisse impuissant, ça a dû vous angoisser énormément.
Ah, et je suis encore. Moi, oui. Tant que j'ai pas, vous savez, j'ai la culture de fonction publique. Chez nous, dans la fonction publique, tant qu'on n'a pas le décret avec le nom, l'entête, le grade et la signature, on n'a rien.
Bien sûr, bien sûr.
C'est pas, ça va s'arranger, non. C'est
on-off.
Pour rien.
Oui, c'est ça. Donc là, effectivement, c'est le verrou qui doit sauter pour que tout le reste puisse se déployer. Parce que pour le reste, vous semblez parfaitement prêt pour reprendre votre vie.
Oh, et... mais je n'attends que cela. J'ai même les dates. Parce que je voudrais que le premier concert tombe le 11 décembre prochain. Parce que pour moi, c'est une belle date. Je voudrais inviter mon carnet d'adresses entier. C'est le jour, c'est un samedi. J'ai un projet de concert, de programme. Et ce jour-là, c'est pas n'importe quoi, j'aurai 65 ans.
Ah oui, en effet. Donc là, c'est tout un symbole dans les...
Et je voudrais ressusciter la famille. Parce que... on devait faire une cousinade, j'avais proposé... Vous savez, les cousinades, il faut un pilote. Et je devais être le pilote. Mais quand il n'y a pas de pilote, le TGV... eh ben, il quitte pas. Si le pilote est invalide à Massy, le TGV, il va pas jusqu'à Quimper.
C'est ça.
Et ben, moi, c'est la même chose. Et puis, vous voyez, je vous parle. Oui. Là où je me trouve, on fête pas le 15 août, mais dans ma région de vacances depuis plus de 60 ans, crêpe caramel beurre salé, Kouign-Amann, Fesnoz. Vous avez compris que je n'étais pas à la Méditerranée.
Oui. Vous êtes de l'autre côté, bien à l'ouest.
Voilà.
Au sens propre.
Mais pas... le bel ouest. Oh, voilà. Oui. Le bel ouest, comme Julien Cellier. Ah, ça, quand je l'entends parler de la Bretagne, oui.
Eh bien, écoutez, Didier, on ne peut que vous souhaiter de tout cœur, vraiment, que ce verrou saute pour que vous puissiez redéployer votre goût pour la musique. On ne peut que vous donner le courage, l'énergie de continuer jusqu'à cette dernière ligne droite. Et notre réalisateur, Marc Bisset, a un petit cadeau pour vous. Il me dit qu'il voudrait, là maintenant, passer Jean-Jacques Goldman, In Changer la vie.
Oh! C'est un chant de Noël.
Voilà, il vous embrasse, je vois, il vous fait signe pour que Jean-Jacques Goldman change aussi la vôtre.
Oh là là, ben écoutez.
22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant. C'est Parlons-nous, votre espace pour parler de vous, chercher à mieux vous comprendre vous-même, à trouver des solutions ou aider d'autres personnes par l'expérience que vous avez vécue. Et avant d'écouter Émilie, nous avons encore un cadeau pour Didier, un cadeau de Jacques. Alors je vous lis le message qui nous est arrivé par la page Facebook, c'est vraiment un beau message. Donc Jacques dit « Didier, votre situation est paradoxale. Vous faites cependant preuve d'un grand calme et semblez parcourir ce chemin de croix avec sagesse et clairvoyance. Ces situations administratives sont cauchemardesques et votre parcours prouve que vous êtes une personne généreuse et responsable. Votre grand sens de la famille vous garantira un futur convivial et chaleureux une fois retourné dans votre cocon. Cordiale salutation de la part d'un archetier à un violoniste. Alors ça, c'est vraiment beau. Une chaîne autour de la passion de la musique. Merci Jacques et merci Didier. Et nous accueillons Émilie.
Bonsoir.
Bonsoir Émilie.
Bonsoir Sabine.
Alors Émilie, de quoi souhaitez-vous nous parler ce soir ?
J'ai 41 ans. Mmh. A priori, tout va bien dans ma vie. J'ai un bon travail, 4 enfants qui vont plutôt bien.
4 enfants ?
C'est un peu le problème en fait. C'est que ma vie est parfaite, mais je ne supporte plus de rentrer à la maison. Je pense que maintenant on appelle ça le burn-out parental. Je pense que ça ressemble un peu ou beaucoup à ce que je ressens. C'est-à-dire une souffrance à l'idée de rentrer à la maison. Parce que même s'ils sont mignons séparément, c'est les cris, c'est la journée avec eux, c'est un marathon de 5h30 le matin à 23h le soir. Là, ils ne sont pas encore tout à fait couchés d'ailleurs.
Oui.
Mais c'est épuisant physiquement, moralement, les cris. Dès que je rentre à la maison, j'ai la boule au ventre. L'idée de passer un week-end et encore pire, les vacances, si on appelle ça comme ça, ça m'angoisse beaucoup. Je ne suis détendue que quand je suis au travail, en gros.
Je reprends votre terme, Émilie, quand vous dites une souffrance physique et morale. Effectivement, ouais. Le burn-out, qui est le terme que vous avez choisi, c'est un terme assez récent. Je crois qu'il y a le prendre au pied de la lettre. Burn-out, c'est la personne est brûlée. Elle est brûlée par ce qu'elle vit, ses ressources sont épuisées, et vous avez raison de dire que c'est physique et moral, parce que il y a dans le burn-out une énorme fatigue physique liée à une longue épreuve et beaucoup d'efforts, et il y a aussi dans le burn-out une souffrance morale, parce que souvent la personne qui n'est plus en mesure d'accomplir sa tâche se sent coupable, se sent en défaut, et cette souffrance-là est aussi importante que sa fatigue. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour vous, si vous...
Oui, j'ai l'impression d'être un robot. Enfin, quand je suis à la maison, je me mets en pilotage automatique. J'essaie de me concentrer sur mes tâches, les lessives, le repas, et j'essaie de gérer le stress, les cris. J'essaie au maximum de me protéger, mais je ne profite plus de mes enfants. Je n'ai pas du tout envie de...
Oui, vous êtes à bout.
Oui, c'est ça. Et du coup, même si je les aime, j'ai du mal à les supporter. Je reste quand même un peu près zen, mais du coup, à l'intérieur, j'ai l'impression que ça boue et ça... J'utilise beaucoup d'énergie pour essayer de rester calme et prendre sur moi, parce que...
L'énergie, c'est quelque chose de quantitatif chez un être humain. Effectivement, il y a une qualité d'énergie, mais il y a aussi une quantité d'énergie. C'est qu'on ne peut pas indéfiniment repousser les limites de ce point de vue-là.
Puis je crois que nous sommes un peu esclaves de nos enfants, donc c'est notre faute. Je pense qu'on n'a pas forcément, on n'arrive pas sûrement à imposer assez de règles, et puis c'est tout le temps maman, 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 papa aussi, il y a papa aussi, mais on fait l'animation, tout le temps ils nous sollicitent. Et on fait un peu l'animateur, la cuisinière, la femme de ménage, ça marche aussi au masculin parce qu'on partage les tâches, c'est pas du tout... peut-être que moi je le vis un peu plus mal que mon compagnon, mais il participe beaucoup aussi à la vie de la famille, mais je pense que je souffre un peu. Pour moi, c'est plus difficile encore, peut-être.
Oui. Est-ce que vos enfants sont rapprochés en âge? Parce que parfois on a une pareille fatigue quand c'est le cas.
Oui. Ils ont 8 ans, 7 ans.
Oui.
Donc ils avaient les grands 13 mois d'écart. Donc on voulait un petit troisième un peu éloigné pour pouvoir... c'était un peu frustrant. J'avais un peu enchaîné. Et puis finalement, on a eu des jumeaux qui sont 2 ans et demi.
Vous avez eu des jumeaux, oui. Oui.
C'est ça. Et donc c'est un peu plus géré. Mon grand qui est finalement de 8 ans, donc le grand a 8 ans, 7 ans et 2 ans et demi. Le grand qui est le plus sage, a une forme d'autisme assez légère, mais à la maison, à la limite, c'est le plus facile. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rendez-vous aussi. Les jumeaux étaient prématurés, donc il y a aussi pas mal de rendez-vous. Donc il faut concilier aussi avec le travail. C'est compliqué, oui. Les problèmes de babysitter, de grève, d'un peu tout, de maladie infantile classique.
Donc finalement, dans ce que vous dites, c'est que la gestion de vos enfants, la gestion en tout cas des tâches à accomplir pour vos enfants, ça prend le pas sur les moments heureux, ludiques. Vous avez une gestion gigantesque.
C'est lourd, du coup, je suis obligée tous les matins de me lever à 5h30, même le week-end, parce qu'il faut que leur repas soit prêt avant qu'ils se lèvent, parce qu'une fois que tout le monde est levé, je peux plus faire une tâche un peu tranquille, parce que ils sont encore, ils sont pas assez autonomes, et puis qu'on les a un peu élevés aussi comme des enfants rois. Alors, ça passe, mais quand c'est par quatre, ça devient compliqué à gérer. Donc, je pense que c'est aussi...
Comment se passe votre journée, Émilie ? Donc, vous dites vous levez à 5h30 du matin, donc vous vous occupez. Oui. Là, le matin, vous n'êtes pas aidée ? Enfin, il n'y a pas de babysitter ou...
Non, le matin, il y en a un qui emmène l'écran à l'école, l'autre qui emmène les petits à la crèche. Donc, moi, je me lève à 5h30, je prends quand même un petit moment de tranquillité jusqu'à 6h, prendre un café. Après, il faut préparer les sacs. En ce moment, la babysitter, elle rentre un peu tard, donc je prépare le repas avant. Le week-end, je prépare le repas aussi avant qu'il soit levé. Le lever, c'est pareil, quand j'arrive à l'école, tout le monde est déposé, j'ai déjà l'impression d'avoir fait une journée de travail, parce que l'impression d'avoir fait décoller un Airbus pour les préparer à l'heure. Donc, la première journée de travail, deuxième journée de travail au bureau, et après, la troisième journée de travail. Avec les devoirs.
C'est ça, le soir qui est un temps de repos en principe après le travail, ça ne vous appartient pas, votre temps ne vous appartient pas du tout. Vous arrivez à avoir des moments avec votre compagnon ? Vous arrivez à avoir des moments tous les deux ? Est-ce que vous parvenez à garder une harmonie entre vous dans cette...
On s'entend bien, je pense qu'on forme une bonne équipe. Après, des moments à deux, pas beaucoup, non. Non, on n'arrive pas. Pas pour l'instant. Après, on s'entend bien. C'est déjà beaucoup.
Mais oui. Et lui, il voit comment il vit votre épuisement ? Comment il voit ça ? Et qu'est-ce qu'il vous dit par rapport à ça ?
Il fait ce qu'il peut pour me soutenir. Quand il peut prendre un rendez-vous pour que je puisse travailler, parce qu'en plus, je ne suis pas non plus à jour totalement dans mon travail. Enfin, je cours après le temps aussi à la maison, parce que la maison, je ne peux pas faire tout ce que je voudrais faire. C'est un peu bazar. Et je cours après le temps au travail aussi. Donc, il essaie de me prendre un rendez-vous médical, les petits, pour que je puisse travailler. Il fait de son mieux, et il en fait aussi pas mal.
Oui.
Pas de ce côté-là.
Et il s'inquiète de voir que... Il le sait que vous avez une boule au ventre et que vous repoussez des limites tous les jours.
Oui, je pense. Il le sait. Il fait ce qu'il peut pour m'aider. Après, lui aussi, il est content d'aller travailler le lundi. Après, il souffre un peu moins, mais lui aussi, il est content quand il est aussi de permanence de temps en temps le week-end. Moi aussi, je suis contente quand j'ai travaillé le samedi maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. C'est pas tout le temps, mais lui aussi, il est content quand le week-end se termine.
Et à part le stress, vous avez un travail qui vous plaît, globalement ? Vous vous épanouissez dans votre travail ?
Oui, j'ai un travail. En plus, je suis dans mon bureau tranquille. Alors, je manque un peu d'ambiance je suis un peu toute seule dans mon bureau, mais à la limite, en ce moment, vu la fatigue des enfants, ça me gêne pas trop. Je pense que ça me pèsera, à l'avenir, de pas avoir du tout de collègues avec qui je puisse échanger, mais pour l'instant, ça...
En fait, vous êtes dans un monde d'enfance et vous manquez d'échanges avec des adultes. Vous avez des échanges avec votre compagnon, bien sûr, mais vous n'avez pas de temps pour avoir des amis ou une vie sociale. Donc ça vous manque.
C'est compliqué. Nos amis, ils sont restés à Paris. Et puis, se faire des amis... on ne peut pas recevoir des gens parce qu'on ne peut pas faire un repas tranquille. On est tout le temps... on ne peut pas être assis 2 minutes pour l'instant. On ne peut pas manger tous ensemble ou être assis plus de 2 minutes sans que les enfants nous sollicitent. Donc, c'est compliqué d'inviter des gens à la maison. À moins d'inviter des gens qui ont des enfants du même âge pour faire un goûter. Et puis, discuter un tout petit peu Voilà. Mais c'est compliqué de se faire de nouveaux amis. Quoi. C'est...
Si je vous comprends bien, Émilie, c'est devenu compliqué avec la naissance des jumeaux, parce que si vous souhaitiez un troisième enfant après vos deux aînés, c'est que jusque-là, à deux, vous vous en sortiez bien au point d'envisager un troisième. C'est la naissance des jumeaux qui a tout compliqué.
Bah, ça avait déjà difficile avec les deux grands, parce qu'il y avait 13 mois d'écart. Et
oui.
Justement, j'avais envie de profiter d'un petit, parce qu'ils ont il y a 4 ans, donc je me disais, bon, j'ai envie de connaître un seul bébé à la fois. Peut-être voilà, de ne pas enchaîner les grands, c'est vrai que les 13 mois d'écart, bon maintenant c'est très bien puisqu'ils s'entendent bien, il y a une belle complicité malgré le petit handicap de mon aîné.
De votre aîné, oui.
Mais du coup, voilà, c'est vrai que ça avait été aussi assez difficile les premières années et j'avais un peu cette frustration, je voulais avoir un enfant, un petit dernier.
Oui.
Tout seul.
C'est ça. Et bah là, après, vous avez eu des presque jumeaux au début, espacés voilà. D'un an. Et là, la vie vous a apporté à nouveau des jumeaux.
Dans le fond, au final, je suis pas malheureuse. Et voilà, ils jouent bien aussi ensemble. Enfin, ça, y a aussi de mon côté que je verrai sûrement dans quelques années. Et il y aura aussi le fait d'avoir des pères comme ça, il y a un côté sympa, ils jouent ensemble. Bon, ils se tapent pour l'instant, les jumeaux, ils se tapent un peu dessus, mais il y a un moment, ils vont vraiment réussir à jouer ensemble, j'espère.
Et vous avez des garçons en plus.
Donc, il y a une fille et trois garçons.
Une fille et trois garçons, ouais. Oui.
Mais elle fait le lien entre
donc
le,
là, votre fille, c'est celle deux. Qui a 7 ans, c'est ça?
Voilà, oui. Elle fait le lien entre les deux. Mais séparément, voilà, ils sont. Après, c'est des enfants, ils crient un peu, mais quand c'est multiplié par 4, les bruits, je ne supporte plus les cris.
Bien
parfois,
sûr.
Même j'ai l'impression d'entendre crier dehors, alors que c'est un oiseau. Enfin, je sens ça comme une attaque physique, les cris. Ça me. Je ne supporte plus. Ça me, j'avais l'impression de m'y faire, et en fait, non, ça me.
Et oui.
Je suis sur le qui-vive tout le temps, quoi. C'est même la nuit, je pense que je suis sur le qui-vive.
Vous arrivez à dormir la nuit? Vous dormez? Là, je vous pose la question par rapport au burn-out. Est-ce que vous arrivez à dormir?
Oui, ça va quand j'ai pas un réveil de temps en temps d'un des jumeaux. Dans l'ensemble, ça va. Quand je peux dormir, je m'effondre. Je n'ai pas trop de mal à m'endormir.
En fait, Émilie, ce qui me frappe en vous écoutant, c'est que d'évidence, vous êtes d'un naturel joyeux, parce que quand vous parlez, on entend une voix allègre, tonique. Donc ça ne doit pas être facile de lire le fait que vous puissiez être à bout. Parce que justement, comme vous avez une voix allègre, tonique, joyeuse, peut-être que les personnes ne s'alertent pas vite de votre état. Peut-être qu'elles ne perçoivent pas forcément les signes de votre fatigue. Ou est-ce que ça vous paraît possible, ça?
Oui, bah oui, parce que c'est vrai que j'ai... Oui, c'est sûr que... En plus, je pense que les gens qui ne sont pas dans cette situation ne vont pas forcément comprendre. C'est vrai que tout le monde s'est dit, là, avant les vacances, bonnes vacances, repose-toi bien, profite-en. Et non, j'en profite pas.
Oui.
Et non, je vais pas me reposer. Et non, j'ai pas envie. Franchement, voilà, parfois, le seul moment où j'ai pu me reposer ces trois dernières années, c'est quand j'ai passé quelques jours à l'hôpital. C'est pour une pneumonie. Donc, voilà.
C'était une bulle, en fait. C'était une bulle de tranquillité pour vous.
Voilà. J'étais chouchoutée. Je n'avais rien à faire d'autre que de me soigner. Et oh là, ça crie, j'espère qu'ils vont se calmer. Mais c'est vrai que je pense que les gens ne comprennent pas forcément, parce que sinon, voilà, il y a des choses bien pires, évidemment, dans la vie. Hein. Et puis, je ne sais pas trop comment. Puis, on ne peut pas craquer, parce que les enfants, ils ont besoin de moi, donc je n'ai pas le droit de craquer.
Oui. Alors oui, mais c'est aussi je crois que vous avez bien fait d'appeler ou en tout cas de poser votre question quelque part, parce que le danger dans le burn-out, c'est que on repousse des limites et nous avons beaucoup de ressources pour ça, mais la quantité d'énergie, quelle que soit notre bonne volonté et quelle que soit notre éthique, puisque vous dites que vous n'avez pas le droit de craquer, vous êtes quelqu'un de responsable, mais l'énergie n'est pas infinie. Donc il y a un moment où ça peut ne pas répondre et il s'agit de ne pas atteindre cette limite-là. Donc aujourd'hui, par rapport à ce que vous sentez de vous, Émilie, est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment au bout, au sens où vous êtes à l'extrême de vos réserves d'énergie? Comment vous estimez ça? C'est important que vous ayez, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez avoir cette alerte-là et la ressentir.
Je ne sais pas. Jusqu'à présent, quand il y a eu des difficultés, j'ai toujours eu l'impression que je n'allais pas tenir et j'ai toujours tenu. Enfin, c'est vrai, quand on a appris l'autisme de mon aîné, j'ai cru que je n'allais jamais supporter, surmonter ça. Il m'a fallu du temps. Puis j'ai, bon, finalement, on a tenu. Voilà, j'ai l'impression que je suis comme le roseau, quoi. Je plie et finalement, j'arrive à avancer vaille que vaille. C'est juste que voilà, c'est dur d'avoir cette souffrance continue.
Une souffrance, et vous parlez d'une boule au ventre, donc là vous parlez d'angoisse aussi.
Oui, et puis du coup ça me provoque des maux de tête, des douleurs au niveau des... Je serre les dents au sens propre, hein, au sens figuré, des douleurs dans les cervicales. Enfin, j'ai même consulté le médecin, mais en fait je crois que c'est simplement ce stress et cette tension permanente. Donc, j'aimerais bien, je ne sais pas comment faire, voilà, pour vivre les choses mieux, être un peu apaisée quand je suis en famille, quoi, et réussir à profiter un peu des vacances et des enfants.
Vous savez, je suis pas sûre que vous puissiez profiter, parce que la question n'est pas que vous ne vous sentez pas bien en famille, ça a été votre désir de faire cette famille à vous et à votre compagnon. Donc, je crois que la question n'est pas là. Je crois que la question, c'est que vous n'avez pas les temps de récupération nécessaires à votre corps et à votre cerveau, les deux. Et le temps de récupération, bon, pour le corps, c'est des moments où on ne fait rien, on est dans une contemplation, on est dans son propre temps, on est dans le repos, c'est comme ça que le corps récupère. Et la façon dont le cerveau récupère, c'est ne pas être soumis à des quantités de stimuli. Or, vous l'expliquez très bien, pour le dire un peu familièrement, un enfant, et je le dis avec toute la tendresse du monde, mais un enfant, c'est une demande sur pattes. Donc, ce n'est que demande, un enfant. Ça veut dire que votre cerveau reçoit, votre esprit reçoit constamment les stimuli de la demande, de l'attente de l'autre. Et les temps de récupération ne sont pas respectés, puisque vous enchaînez les semaines comme ça. Donc, je crois que la question n'est pas comment vous pouvez faire pour mieux profiter de ces moments. La question est comment vous pouvez maintenant insérer dans votre mode de vie des temps de récupération qui sont nécessaires. Je pense qu'il n'y a que ça qui puisse vous aider à profiter. Par exemple, vous disiez qu'à l'hôpital, bon, malheureusement c'était pour une maladie, mais vous avez apprécié d'être dans une bulle où on peut s'occuper de vous. Enfin, je vous donne une idée, ce ne sera peut-être pas la bonne, mais supposons que vous puissiez faire une thalasso toute seule ou avec une amie, où vous soyez également dans une bulle et on s'occupe de vous. Je pense que c'est off, complètement off, une semaine par exemple. Je crois que c'est ça les temps de récupération dont vous avez besoin.
Ah, moi, j'aimerais bien, mais après, réussir à caser les quatre... Mon mari peut pas, enfin que ça soit lui ou moi, c'est vrai qu'on peut pas s'occuper seul des quatre. Enfin, même quand je travaille ou quand il travaille le samedi, on prend une babysitter pour nous aider parce que on n'arrive pas encore à gérer seul les quatre. Donc,
je comprends, Émilie, mais je crains qu'il y ait aussi un cas de force majeure, parce que supposer que vous tombiez malade, bon, c'est vraiment pas ce que je souhaite et c'est pas ce qui est probable demain, mais supposons que vous tombiez malade, là vous ne pourrez plus rien faire du tout. Et vous savez, la difficulté avec le burn-out, on le sait dans les entreprises par exemple, parce que c'est là que c'est dans la psychologie du travail que le concept a été formé, c'est que une fois qu'on franchit la zone, la limite, on peut dire de la brûlure, ensuite c'est long pour remonter, c'est beaucoup plus long que de prévoir des temps de récupération au fur et à mesure. Donc si jamais vous deviez franchir cette limite, là, ce ne serait pas une semaine, ça pourrait être 3 mois pour récupérer. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est si important, je crois que c'est une priorité absolue de vous mettre des temps de récupération et que vous puissiez les organiser.
Oui, j'espère. Ils vont tous rentrer à l'école, enfin les petits. J'espère que ça va être un petit peu plus... que la gestion du coup sera un petit peu moins lourde.
Peut-être vous aurez à prendre des décisions, voilà, peut-être une organisation un peu radicale pour une semaine donnée, l'organiser, quitte à utiliser les babysitters, parce que ça peut être, enfin, à mon sens, là, il y a quelque chose de l'ordre de la première nécessité pour vous.
Même ma mère, elle nous culpabilise parce que parfois, c'est vrai qu'on prend une babysitter pour faire une sortie avec les grands parce qu'ils sont, bah, ils font pas les mêmes choses et puis c'est plus facile. Mais c'est mal vu aussi, voilà. De...
Alors c'est là qu'entre la dimension. Oui, mais là, Émilie, je pense que la culpabilité, si vous la ressentez parce que vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait des souffrances pires que ça, ou parce que vous pensez que vous n'êtes pas une bonne mère si vous ne pouvez plus à un moment donné, je crois que la culpabilité, ça amène à ne pas entendre les signaux, à repousser des limites. Et le problème, c'est que franchi cette limite, on ne peut plus fonctionner du tout. Et là, ça devient beaucoup plus difficile. Vous voyez, dit autrement, la culpabilité est mauvaise conseillère dans une situation comme celle-là. Parce que je crois que ce n'est pas une question de ne pas savoir vous organiser, de ne pas savoir supporter, de, qu'il y ait des choses plus graves et que vous n'ayez pas le droit de vous plaindre. Oui, on peut à la fois dire que vous avez choisi votre vie, que vous aimez cette famille nombreuse, que vous avez des satisfactions, que vous aimez chacun de vos enfants, et dire aussi que les limites de la fatigue physique et morale sont franchies. Et là, il n'y a pas de culpabilité à avoir, de la même façon que si vous ne pouvez pas courir le marathon parce que votre corps ne peut pas, vous n'allez pas être coupable. C'est du même ordre.
Ouais, et puis c'est vrai que dans les émissions, enfin c'est la mode en ce moment, les émissions sur les familles nombreuses où c'est le bonheur, tout va bien, c'est voilà, ça véhicule aussi une idée de la maternité sans problème, sans enfants qui s'énervent, qui font des colères. Bon, c'est sûr. Alors qu'après ça... c'est difficile quand on a, avec quand le quotidien ne ressemble pas trop à ça. C'est compliqué. Enfin, voilà,
alors ça, Émilie, peut-être pour vous aider à ne pas vous sentir coupable et à prendre les mesures pour récupérer, je peux vous dire qu'au cabinet, j'écoute beaucoup de femmes et le discours des femmes, c'est pas en effet ce qu'on voit dans les médias ou dans les tableaux parfaits. Bien sûr, il y a des joies comme celles qui sont exprimées médiatiquement, mais il y a aussi beaucoup de difficultés dont les femmes se sentent coupables parce qu'elles ont l'impression que c'est elles qui ne sont pas à la hauteur, que ce sont des petites natures. Et avec cette idée aussi du quand on veut, on peut repousser des limites, mais c'est pas toujours quand on veut, on peut. Parce qu'il y a une réalité du corps, il y a, et que même si nous avons un énorme potentiel d'adaptation, vous l'avez déjà utilisé, votre énorme potentiel d'adaptation, il y a aussi des limites auxquelles on peut pas aller. Et je crois que nous avons tous le devoir envers nous-mêmes de bien traiter notre corps, notre énergie, aussi pour que nous puissions continuer à donner aux autres ce que nous voulons leur donner.
Oui, puis j'ai pas envie non plus de... C'est vrai, quand on est un peu fatigué, énervé, ben, parfois je peux... Enfin, j'essaie de pas m'énerver, mais c'est vrai que c'est dommage... Enfin, j'ai pas envie d'être cette mère-là qui s'énerve, qui parfois elle peut crier, ou c'est pas dans ma nature, et parfois j'ai l'impression de pas ressembler ou de pas me ressembler.
C'est ça. Et là, vous n'êtes plus dans votre désir, parce que votre désir, c'est certainement de former une famille harmonieuse, avec des moments de bonheur, avec le plaisir à éduquer. Et quand vous êtes submergé, vous le dites, vous ne vous reconnaissez plus, donc vous n'êtes plus dans ce qui a donné du sens à l'idée de cette famille. Donc c'est des choses importantes, c'est pas simplement des détails en disant bon, j'ai juste à faire un petit effort et ça va aller. Je pense qu'il y a des choses importantes qui sont engagées. Peut-être c'est parler à votre compagnon, c'est-à-dire de est-ce que vous lui avez dit à quel point cette pause serait nécessaire? Ça, je suis sûre qu'il peut l'entendre. Vous savez,
oui,
là aussi...
On en est conscient. Après, on aimerait bien avoir justement pouvoir refaire des sorties, se faire une soirée au resto, au théâtre. Et bon, on a ça en projet, on y pense, mais pour l'instant, c'est compliqué à mettre en place.
Oui, et puis ça vous renvoie à loin. Vous savez, mon propos n'est pas d'être alarmiste, parce que j'ai vraiment confiance dans l'être humain et face à la nécessité, nous avons énormément de ressources. Mais sans être alarmiste, c'est vraiment vous alerter sur ce phénomène du burn-out, vous n'avez pas employé ce terme au hasard, qui est quelque chose de bien réel et qui peut nous amener à franchir nos limites pour toutes les bonnes raisons du monde, par notre sentiment de devoir, par l'engagement que nous avons, et qui ensuite peut nous amener dans des phases de récupération qui sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus longues. Et je ne voudrais pas pour vous, Émilie, que vous en arriviez là, avec la bonne intention de chaque fois repousser la limite, vous voyez ?
Oui, non, c'est sûr que oui, j'aurais bien besoin de mettre mon cerveau un peu en...
Exactement, en repos complet. Et même si vous pouvez 3 jours, l'idée c'est que vous n'ayez plus aucun stimuli physique, cérébraux, pour être dans votre temps, dans votre espace, et que ce soit votre temps de repos et votre vie pendant un moment, juste la vôtre. Émilie, vraiment, je vous encourage à prendre soin de vous, ça me paraît indispensable. Et bon, peut-être vous aurez l'occasion de nous rappeler pour nous donner de vos nouvelles, peut-être que vous allez inventer des solutions pour avoir ces moments de tranquillité et de respiration.
D'accord, merci beaucoup Samine en tout cas.
Je vous en prie Émilie.
Une bonne soirée.
Voilà, prenez bien soin de vous.
Merci beaucoup.
Et pour ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez témoigner, réagir à ce que vous venez d'entendre, il y a beaucoup de mamans qui sont dans le cas d'Émilie, 09 69 39 10 11 ou par SMS 64 900 code RTL.
22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Nous sommes très heureux de vous accueillir si vous nous rejoignez maintenant. C'est Parlons-nous, l'émission qui vous donne la parole en direct pour toutes vos questions de vie. Et il nous reste une heure à passer ensemble, alors n'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. N'hésitez pas à témoigner aussi par SMS 64 900 code RTL ou sur la page Facebook RTL-Parlons-nous. C'est le tout nouveau titre de Nolwenn Leroy, signé par Benjamin Biolay, avec qui elle enregistre son nouvel album qui sortira d'ici fin 2021.
Jusqu'à minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Soyez bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Parlons-nous jusqu'à minuit, alors n'hésitez pas à nous appeler à n'importe quel moment, 09 69 39 10 11. Bonsoir Francine.
Oui, bonsoir Sabine. Oui.
Eh bien, je vous écoute Francine. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Voilà. Jeudi, j'étais en voiture. Non, d'abord dimanche. Dimanche dernier, suis montée à Lyon. Tout s'est bien passé. J'ai pris l'autoroute. Tout s'est bien passé. Oui. J'avais un rendez-vous. Bon. Et jeudi, je suis redescendue parce que j'habite dans le sud, vers Marseille. Et je prends l'autoroute à la sortie de Lyon. Je regardais. Bon, il y avait un ralentissement. Et bon, je ne roulais pas vite. Il y avait 80, environ 80, 90, mais encore. Et il y a un camion qui m'a doublé.
Oui.
Et elle m'a dit qu'elle ne m'avait pas vue dans l'angle mort. Alors, elle m'a accroché tout le long de la voiture. C'est une petite voiture, mais bon, tout le long, côté gauche.
Donc de votre côté à vous ?
Oui.
Oui.
Bon, heureusement que j'avais la vitre levée, parce que je ne serais pas là en train de vous appeler. J'étais stressée comme tout. Enfin, sur le coup, non, mais c'est après.
Oui.
Et puis, je vois toujours. Et donc, ma voiture, elle s'est mise devant le camion. Je ne sais pas comment elle a fait. C'est tellement passé vite. Elle s'est mise devant un camion. Donc
sur la file de gauche ?
Oui, voilà, sur la file de gauche. Elle a freiné. Donc, tout le côté gauche a été pris. Les deux portières enfoncées. Et le moteur, il marche. L'arrière. Et les pneus sont en bon état. Enfin, ils n'ont pas été... Et à chaque fois, je vois cette image.
Oui, vous êtes extrêmement choquée. D'abord, c'est violent ce qui vous est arrivé.
Oui, c'est violent. Oh. Et oui, en 47 ans de permis, la première fois, ça m'arrive.
Et les accidents sur l'autoroute, même si ce n'est pas toujours les plus dangereux, sont extrêmement impressionnants parce que 80-90 pour avoir un choc, ça fait une grosse différence avec la vitesse en ville. Donc, ce n'est pas beaucoup pour une vitesse sur autoroute, mais enfin 80-90, si on additionne cette vitesse-là et celle du camion, ça fait déjà une vitesse importante.
Elle m'a dit qu'elle roulait à 30. Mais bon, je veux bien.
Mais comment elle a pu vous dépasser sur la gauche si elle roulait à 30 et vous...
Elle m'a dépassé et je l'ai vu dans le rétro qu'elle allait me dépasser.
Oui.
Je reste sur ma file, de toute façon. De toute façon, j'ai cherché Marseille, tu voyais le panneau Marseille, donc je reste sur ma file. Oui. Après, sur l'autre file, bien à droite, Lyon.
Je comprends.
Oui. Alors, c'est vrai, ça m'a choqué comme j'ai appelé jeudi. Et ça s'est passé jeudi.
Donc, donc nous sommes mardi, donc ça s'est passé
jeudi le 15, semaine dernière.
Ça s'est passé jeudi. Et vous disiez que vous avez reconduit dimanche, c'est ça?
Non, j'ai pas conduit. Non, j'ai la voiture au garage, donc assurance, elle est là-bas. Il y a le dépanneur qui est venu. Bon, je l'ai conduit, un peu pour sortir de Lyon parce que le dépanneur, là, le remorquage, ils ne peuvent pas remorquer la voiture sur l'autoroute. Alors, j'ai pris une bretelle à droite, Lyon, donc direction Lyon. J'ai trouvé une station en service. Et là, j'ai appelé le remorquage qui vient me chercher.
Ce que je comprends, Francine, et ce qui a dû être très difficile, c'est que juste après l'accident, donc, vous n'avez pas été prise en charge. C'est vous qui êtes, qui avez conduit au ralenti votre voiture jusqu'à un endroit où vous avez pu appeler les secours. Oui. Et ce moment-là, il a dû être très difficile parce que vous étiez en état de choc.
Oui.
Vous deviez trembler comme une feuille.
Énervée en plus. Ouais.
Et il y a eu une interaction entre vous et le conducteur du camion?
Non. Elle m'a dit, on fait comme ça. J'ai dit, oui. Alors, elle a fait sur le portable. Elle me dit, vous avez dépassé. J'ai dit, non, je n'ai pas dépassé. Moi, j'étais sur ma fille. Et après, elle m'a dit, je ne vous ai pas vu dans le rétro. Vous étiez dans l'angle mort. Oui, mais un camion et une petite voiture...
En plus, l'interaction avec cette personne, c'est pas très bien passé finalement.
Si, elle a fait au début, puis après, c'est une jeune de une trentaine, 35 ans,
oui.
À peu près.
Oui.
Après, on s'est mis sur le nerf de repos, d'urgence, hein, une bande d'urgence.
Oui, une bande d'arrêt d'urgence.
D'arrêt d'urgence. Moi, j'ai appelé le 17. Ils m'ont dit d'appeler le 17, la sécurité. Bon, ils m'ont dit, il n'y a pas de blessés. J'ai dit non, ça va. J'ai eu un peu mal à la tête, mais c'est passé.
Vous avez eu mal à la tête? On vous a examiné, Francine?
Non.
Et non, aujourd'hui, vous avez...
J'ai eu une petite bosse, mais ça y est, c'est parti, non?
D'accord. Vous n'avez plus rien là, vous n'avez pas de maux de tête,
vous n'avez pas de vertige,
pas de douleur.
Non. D'accord. Ça va. Moi, je me suis remis. Après, mon assurance m'a envoyé un taxi pour me descendre sur Marseille. Parce que, encore, ils voulaient me prendre, ils voulaient que je prenne une voiture en location. Je dis non. Ça va pas, non.
Oui,
non,
vous avez bien fait, vous avez bien fait.
Non, c'était pas
raisonnable.
Bon, non, c'est une plateforme. Mais...
Oui.
Bon. Et il dit non, moi je suis. Et le taxi, il a dit. Il dit non, faut pas qu'elle prenne une voiture de location, non. Elle n'est pas dans son état. Et ouais, je n'étais pas dans mon état.
Et là, aujourd'hui, Francine, donc comment vous vous sentez? Vous dites que vous revoyez la scène, c'est...
Oui, je vois juste le camion et puis moi en travers de la voiture, en travers de la route.
Cette image-là, vous l'avez la nuit aussi?
La nuit, je dors. Hein. Mais
vous arrivez à dormir?
Non, je prends les tisanes, comme j'ai dit au... Oui, il prend des tisanes, il ne veut pas prendre de somnifères, ça sert à rien.
Mais si vous dormez
bien,
non.
Moi,
oui.
Non, là, je prends les tisanes, puis bon, avec le temps. Et maintenant, ce qui me stresse, que le garage, j'ai appelé le garage, j'ai dit non, parce qu'elle est plus côté. J'ai dit non, moi, j'ai fait des réparations et tout. Je leur ai envoyé les factures et tout. Alors demain après-midi, c'est que de la tôle, hein. En regardant bien, c'est les deux portières qui sont enfoncées et un peu l'aile qui est un peu tordue, comme on dit.
Oui. Mais d'après ce que vous dites, Francine, ce qui est le plus difficile dans ce qui vous arrive, c'est pas trop les questions pratiques, parce que bon, c'est toujours très ennuyeux, mais elles vont se résoudre. Je suppose que l'assurance vous a dit que vous n'étiez pas en tort. Bon, les choses vont se réparer. Oui. Donc là, vous avez des problèmes pratiques, vous serez privé de votre voiture, vous avez des dossiers ennuyeux à faire. Mais ce qui est le souci, c'est plutôt le choc que vous avez reçu.
Le choc, oui.
Oui, et puis l'état post-traumatique que vous avez. Parce que quand vous dites que vous revoyez en boucle les images qui passent, ça, c'est le signe du choc traumatique que vous avez eu et qu'il ne s'agit pas minimiser.
Oui. Ce que j'ai peur, c'est plus tard d'avoir le contre-coup. Là, ça va.
Qu'est-ce que vous appelez le contre-coup plus tard?
Ben, je sais pas.
Qu'est-ce que vous craignez?
J'ai aucune idée. Je ne sais pas s'il serait bien ou il ne serait pas bien.
Alors, pour vous expliquer comment les choses fonctionnent avec l'esprit, donc sur le moment quand la situation s'est produite, toutes vos ressources cérébrales étaient focalisées sur la survie. C'est-à-dire sur les gestes à faire pour ne pas être en danger, pour vous mettre à l'abri, pour gérer ce qu'il y avait à gérer sur le plan pratique. Là, ce sont vos forces de survie qui se sont mises en mouvement. Donc, sur le moment, vous ne pensez pas au danger auquel vous venez d'échapper. Vous ne pensez pas. Vous êtes uniquement concentré sur l'action efficace. Ça, c'est au moment de l'accident. C'est la raison pour laquelle, sur le moment, vous ne ressentez pas des émotions qui vous submergent, du type la peur, l'angoisse, le tremblement ou même la colère. Voilà. Donc ça, c'est le temps de gestion de l'urgence. Et ensuite, vous avez continué à gérer l'urgence parce que vous avez eu à conduire vous-même pour arriver à la station-service et demander le secours. Donc là, votre cerveau était encore en mode de gestion de l'urgence. Donc là, vous ne ressentiez pas encore les émotions parce qu'il s'agissait d'assurer votre survie, de vous mettre à l'abri. Et ça n'est qu'après, quand la fonction de survie est assurée, que vous êtes à nouveau en sécurité et que les gestes d'urgence ont été faits, que votre esprit est disponible pour traiter ce qui vous est arrivé. Et c'est là que se mettent en mouvement, a posteriori, toutes les émotions. Et je suppose que les pensées que vous avez, c'est « Mon Dieu, qu'est-ce qui aurait pu m'arriver ? J'aurais pu... »
Oui.
Voilà. Et là, vous faites tous les scénarios possibles.
Oui. Voilà. C'est vrai. Parce que s'il y avait eu le réservoir de l'autre côté, donc le côté gauche, ça aurait fait des dégâts. Hein.
C'est ça. Vous envisagez toutes les hypothèses. Oui, voilà, vous le dites. Si je roulais plus vite, si j'avais pas ma ceinture, si le réservoir. Et là, votre esprit commence à intégrer. Il fait l'épreuve de réalité. Votre esprit est en train d'intégrer la gravité de ce qui vous est arrivé et où ça aurait pu vous mener. Donc là, vous êtes dans ce moment-là. Alors, quand vous dites « je crains le contre-coup », là, vous y êtes dans le contre-coup. Il ne peut pas vous arriver...
Qui remonte à la surface.
Voilà. Et là, maintenant, alors, ce qui peut vous arriver après, comme deuxième temps du contre-coup, là, je vous dis les hypothèses, hein, ce n'est pas forcément ce qui va se produire. Ce qui peut se produire après, une fois que vous aurez passé ce moment post-traumatique où vous voyez les images en boucle, vous pouvez garder des peurs ou des phobies. Par exemple, vous pouvez... Voilà, c'est ça la trace qui peut rester. Vous pouvez avoir peur en voiture dans certaines conditions. Par exemple, vous pouvez avoir une phobie des bancs du tracé sur la route. Vous pouvez... Voilà, ça c'est des choses... C'est le pire qui puisse vous arriver après. Et si jamais, voilà, c'est le pire qui puisse arriver. Mais là, le plus gros contre-coup, il est maintenant. C'est-à-dire au moment, voilà, tout ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Alors, la façon dont votre esprit répare ça, parce qu'on peut se faire aider si c'est difficile, mais nous avons tous nos mécanismes d'auto-guérison. On a une formidable technologie intérieure pour toutes les circonstances de la vie. Donc la façon dont votre esprit se répare, c'est qu'il fait le scénario, il le repasse en boucle, et en fait, si vous observez bien la façon dont les scénarios repassent en boucle, vous remarquerez que très souvent, il y a des petits détails qui changent, c'est-à-dire l'image se transforme petit à petit. Et c'est pareil dans les cauchemars.
Ah oui, d'accord. Vous
voyez, par exemple, pour ceux qui font des cauchemars post-traumatiques, la nuit, le rêve arrive, on a l'impression que c'est un rêve à l'identique, mais nuit après nuit, un petit détail se transforme et se transforme, le rêve devient de moins en moins angoissant, et c'est comme ça que l'esprit intègre, métabolise ce qui est arrivé. Si vous voulez, ces images à répétition qui se transforment progressivement, c'est le processus de guérison de votre esprit face au traumatisme. C'est un mécanisme normal.
Oh, vous voyez ? Donc ça va s'arranger au fur et à mesure.
Exactement. Donc ne luttez pas contre l'arrivée de ces images. Laissez-les passer. Voilà, sans non plus les entretenir, vous focaliser.
Non.
Mais quand elles arrivent, vous les laissez passer en vous disant que c'est le processus normal de réparation de votre esprit. En général, voilà, il faut plusieurs semaines. Comptez plusieurs semaines.
Oh oui. Et là, la semaine prochaine, le 28, donc.
Oui.
Je sais pas. Oui, vers le 28. Je vais 3 semaines, je vais aller dans un centre pour le métabolisme. Ouais.
Donc de nutrition,
donc,
c'est ça?
C'est pas une cure, c'est un séjour hospitalier.
Oui.
Mais dans un centre, en dehors de l'hôpital.
D'accord.
Et là, j'ai fait beaucoup de. Il y a beaucoup de. Bon, les infirmières, on se fait chouchouter.
Vous voulez dire que Francine, vous avez un trouble métabolique? Vous êtes diabétique ou quelque chose comme ça?
Oui, voilà, je suis diabétique.
Oui. D'accord, donc ça, c'est.
Et chaque année, j'y vais. Et là, je ne sais pas pourquoi, je veux y aller cette année. Enfin, cet été. En principe, je vais en fin d'année, parce que comme je ne suis pas trop gourmande, les chocolats, la boîte, elle va y passer pour les fêtes de fin d'année.
Oui.
Comme je vis seule. Alors, bon, en fin d'année, quand il y a moins de monde, moi, ils me connaissent maintenant là-bas. Mais bon, c'est bien parce qu'on fait beaucoup d'activités, on fait de la marche, on fait du sport, enfin, on fait pas mal de choses.
Je pense
la
que ça arrive.
La relaxation aussi avec les infirmières aussi.
Ça arrive à point nommer ce séjour que vous faites. Parce que si le lien humain sécurise énormément dans ce que vous avez vécu. Donc si vous êtes entouré avec des personnes sécurisantes, en principe les infirmières sont là pour ça, et surtout si le personnel vous connaît, c'est également ce qui peut favoriser le processus de guérison de votre esprit, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Donc ça, c'est une excellente décision d'aller dans votre centre maintenant.
Oui, ben, je vais le mercredi prochain et bon, le temps de faire le nécessaire pour la séance. Moi, je dis, si il n'est pas avant le 28, vous la gardez jusqu'au mois d'août et j'irai la chercher. Et là, je serai peut-être remis de mes émotions, comme on dit.
Oui.
Je pense.
Oui, vous savez, ça va, comme on le disait, ça va se faire progressivement. Comptez quelques semaines, vous verrez, les images dans votre esprit vont se transformer petit à petit.
D'accord.
Et ensuite, il s'agira d'être attentive à voir si vous avez des phobies en reprenant la voiture ou si vous avez des crises d'angoisse qui vous semblent irraisonnées. Là, il faudra penser que ça peut venir de là. Et à ce moment-là, vous pourrez consulter. Voilà, le médecin généraliste, ça peut suffire dans ces cas-là pour vous donner un peu d'anxiolytique s'il y a besoin. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, vous êtes vraiment dans quelque chose de tout à fait normal.
Oui, d'accord. C'est bien.
Voilà, Francine.
Ben, je vous remercie beaucoup, ça m'a soulagée. Et puis, bon, très bien.
Prenez bien soin de vous et dans tout ce que vous avez dit, j'entends que des choses normales. Donc là, vraiment, les choses devraient suivre leur cours. C'est quand même pas rien ce qui vous est arrivé.
Oui, c'est vrai, c'est pas rien.
Oui.
C'est la première fois que j'ai un accident comme ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie.
Oui, oui, puis bon, nous savons intégrer ce type de, type d'épreuve. Voilà. Passez un bel été, Francine. Prenez soin
Merci
de vous.
Merci beaucoup et vous aussi.
Merci. À bientôt.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous. 22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Bienvenue si vous nous rejoignez, parlons-nous continue sur RTL. Si vous avez pour votre vie une question qui vous tient à cœur ou vous tourmente, n'hésitez pas, le numéro vous le connaissez, 09 69 39 10 11. Et nous accueillons Brigitte. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir Sabine.
Alors, crois que vous souhaitiez faire écho au témoignage d'Émilie.
Oui. Alors, moi, je suis aussi mère de famille nombreuse, en ce sens que j'ai un garçon, des jumelles et un garçon.
Alors, je voudrais t'arrêter un petit instant pour qu'on resitue Émilie pour ceux qui nous rejoignent. Donc, Émilie qui a 4 enfants, très rapprochés, 8 ans, 7 ans, 2 jumeaux, et qui nous a parlé d'un burn-out parental. Donc, elle est si submergée, malgré son amour pour ses enfants, qu'elle a une véritable angoisse. Elle parle de boule au ventre quand elle rentre chez elle. Donc ça, c'est pour Émilie. Et vous, Brigitte, vous dites que vous avez aussi, donc, vous avez 3 enfants.
4. Donc, un garçon, des jumelles et un garçon.
D'accord.
Et moi, je me suis retrouvée toute seule quand mes filles avaient 1 an. Donc, mon fils avait 5 ans. Et donc, je ne travaillais pas parce que je n'aurais pas gagné ma vie du tout en allant travailler. Donc, moi, j'étais 24 heures sur 24 avec mes 3 enfants.
Seule, donc,
le grand, il allait à l'école et les deux filles, ben, 1 an. Et je peux vous dire que j'en avais un numéro entre les deux.
Ah.
Alors là, elle s'est mise debout plus tôt que sa sœur. Elle joue au trampoline sur son ventre. Elle passait partout les petits trous. Elle m'a mangé plein de trucs dans le jardin. Les herbes
une boule d'énergie.
Les baies de Laurietta, elle n'a jamais été malade. Elle avait mangé les boutons de son gilet. Elle pompait de l'énergie pour deux. Et à un moment donné, moi, j'ai dit à mes parents, je n'en peux plus. Parce que j'étais toute seule et pas de famille non plus. Je n'ai ni frère ni sœur et mes parents étaient à 600 kilomètres.
En effet, et là, vous aviez tout sur les épaules.
Oui, et un jour, je venais nettoyer, ma fille avait renversé le pot de pipi, un meuble avait barbouillé avec du lait de bébé, et elle m'a fait les 400 coups, comme j'ai dit, hein, j'en peux plus, j'ai fait une connerie, je n'en pouvais plus, j'en passais une par la fenêtre, je n'en pouvais plus. Et là, mes parents ont dit, bon, on vient, et ils sont venus chercher mes deux filles, j'avais été hospitalisée, parce que je faisais tout le temps de la température, parce que mon corps n'en pouvait plus.
C'est ça.
Et je me suis dit, moi, quand il va être parti, le grand va à l'école, 15 jours de repos, et je vais te retaper. J'ai dormi pendant une moyenne de 16 à 18 heures pendant 2 mois et demi.
Et oui, ce que vous dites là, Brigitte, illustre ce qu'on évoquait, qu'on craignait pour Émilie, c'est qu'effectivement, passer un certain seuil de fatigue, après ça peut prendre des semaines, vous parlez de 2 mois et demi, on évoquait 3 mois, ça c'est tout à fait...
2 mois et demi.
Oui, classique.
Et alors, je dis... Et après, on garde une fragilité. C'est comme un élastique. Quand on a
tiré dessus, c'est tout à fait ça.
Alors, quand j'ai connu un gentil monsieur, au bout de 3 ans toute seule, qui m'a pris en gros lourd avec mes kilos en trop, mes 3 enfants et le chien, et il a adopté mes enfants, et on a fait un petit 4e. Et quand le dernier a eu 2 ans et demi, il est allé à l'école, je me suis prise pendant des années... 1 semaine en vacances en Espagne, au soleil, au mois d'octobre, novembre, recharger les batteries en appart-hôtel ou à l'hôtel, ne penser qu'à moi. Je les avais une fois par jour au téléphone et mon mari, il gérait. J'avais une de mes filles qui aidait son petit frère à s'habiller. Bon, il les posait à l'école et puis il faisait un petit peu de garderie le soir et puis il rentrait tous en taxi. Et j'avais besoin de ça, de ne penser qu'à moi, de vivre à mon rythme, de traîner au lycée, j'avais envie d'aller à la piscine.
C'est ça, être dans votre temps.
Voilà. Alors, Et c'est ce que je dis toujours, si on ne peut pas essayer de se prendre un long week-end, d'aller, de se faire une thalasso, vraiment de rentrer dans sa bulle le maximum, mais si on peut se prendre un long week-end, ne fût-ce qu'avec un hôtel où il y a piscine, jacuzzi et tout ça, sans devoir dire je vais faire une thalasso complète parce qu'on n'a pas les moyens, mais je veux dire un hôtel qui permet d'avoir tout ça,
c'est ça.
Plus l'air de la mer,
aucune gestion.
Vraiment, voilà, on ne s'occupe de rien, oui. Je me payais le restaurant, je sortais à l'heure que je voulais. Il y en a qui me disaient, bah, pourquoi tu ne prends pas quelqu'un ? Ça ne me venait même pas à l'esprit, j'aurais pu sortir comme j'avais envie. Non, mais et j'ai fait ça pendant à peu près 8 ans, 7 ou 8 ans, jusqu'à ce que mon dernier ait 10 ans.
Ce qui me paraît précieux dans votre témoignage, Brigitte, c'est qu'en adoptant cette solution, vous semblez ne pas avoir été entravée par la culpabilité qui entrave souvent les mamans. Émilie en parlait tout à l'heure. Il me semble, Brigitte, dans la manière dont vous en parlez, que vous avez pris ça, vous avez pris cette solution avec bonheur, sans culpabiliser, en prenant acte du fait que c'était une absolue nécessité pour vous.
Ah ben oui, parce que je dis toujours, comme ma fille, elle était toute seule avec la petite qui avait 2 ans et demi, bon, maintenant elle a pris un autre bébé, je lui ai dit toujours, une maman qui va bien, les enfants vont bien, une maman qui va mal, les enfants.
Alors là, Brigitte, je vous arrête un petit instant pour lire un très beau message de l'homme aux camélias, qui est aussi un très beau pseudo. Vous voyez, cette reconnaissance vient d'un homme qui dit en effet « Charité bien ordonnée commence par soi-même. En prenant soin de vous, Émilie, mais ça s'adresse aussi à vous, Brigitte, c'est votre famille que vous soignerez. » Donc effectivement, prendre soin de soi, charité bien ordonnée, on ne peut pas dire mieux. C'est une façon d'apaiser la culpabilité, qui est vraiment la clé pour pouvoir prendre soin de soi au-delà des questions pratiques.
Mais moi, j'ai pas eu besoin de culpabiliser. Moi, j'ai pas culpabilisé. Moi, j'ai dit, j'en ai besoin. J'ai été 2 mois et demi sans mes filles, juste avec mon fils. Et si j'avais pu le mettre, quand il rentrait de l'école à 4h30, le mettre à 5h au lit, j'aurais fait pareil. Il allait au lit, j'allais au lit.
Oui.
Et je me levais avec lui et je me recouchais. Et je vais dire ce qui m'a beaucoup sauvée aussi, c'est mon chien qui m'a énormément réconfortée. Alors il me servait de bouillotte parce que pendant 2 mois, je grelottais. J'étais emmitouflée dans plusieurs pulls, dans une robe de chambre avec une grosse couette sur moi et le chien à côté de moi. Et je ne faisais que dormir.
Oui, vous étiez allée vraiment au bout de vos forces et heureusement, vous vous êtes arrêtée avant de tomber gravement malade. Mais vous avez connu ce que c'est qu'un burn-out avec des besoins de semaines pour récupérer. Vous avez connu cette épreuve-là. Brigitte, c'est très précieux votre témoignage. J'espère avec vous qu'Émilie nous entend et que cela l'encouragera à ne pas aller jusqu'au bout de ses forces avant de prendre soin d'elle et de prendre ce temps juste pour elle.
Oui, parce qu'après on le paye et on garde une fragilité malgré tout.
C'est vrai, c'est exact. Merci beaucoup Brigitte, continuez à prendre soin de vous.
Merci beaucoup.
Voilà, et peut-être une prochaine fois à l'antenne 09 ouais. 69 39 10 11.
Merci beaucoup.
Au revoir Brigitte.
Sabine Calégari sur RTL, parlons-nous. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. Il nous reste un bon quart d'heure ensemble. C'est Parlons-nous, l'émission qui vous donne la parole en direct au 09 69 39 10 11. Et nous accueillons à nouveau David qui nous donne de ses nouvelles. Bonsoir David.
Oui, bonsoir.
Très heureuse de vous entendre, David.
Ben, merci beaucoup.
Oui.
Merci beaucoup.
On s'est parlé il y a quelques jours, donc je me souviens parfaitement de notre échange. Est-ce que j'en redis quelques mots pour ceux qui nous écoutent ? Voilà. Voilà, donc je parle sous votre contrôle, David. Donc
oui,
vous aviez une relation avec une femme mariée depuis quelques années et vous vous inquiétiez du fait qu'elle ne quitte pas son mari. Vous nous avez confié qu'elle avait connu le deuil d'une fille et nous avions fait l'hypothèse ensemble que peut-être ce deuil faisait lien avec son mari, alors pas sur le mode de l'amour, pas sur le mode du projet commun, mais plutôt sur le mode de la tragédie.
Oui, c'est ça. Et donc, j'ai écouté vos conseils. Donc, je lui ai parlé. J'ai amené la chose tout doucement, voilà, sans la brusquer, quoi.
Ce que vous avez dû savoir faire, parce que si je me rappelle votre témoignage, vous aviez déjà l'habitude de beaucoup parler ensemble.
Oui, Oui.
Vous vous confiez beaucoup l'un à l'autre.
J'avais peur qu'elle le prenne peut-être mal. Et puis pas du tout. Pas du tout. Et puis elle m'a dit donc que la semaine prochaine, on a déjà un rendez-vous. Oui, elle dit que ça peut, voilà, ça pourrait peut-être lui faire du bien.
Oui.
Bon, je pense que ça ne sera pas en une fois, en une séance, c'est pas possible. Mais je pense que ça va encore prendre un peu de temps.
Oui.
Mais voilà, si ça peut aller à la décider de, moi, de le quitter, vraiment, j'en serais le plus heureux, quoi. Et puis, donc on a parlé de ça. Donc elle m'a dit oui, c'était par rapport à. Leur fille disparue, et c'était aussi par rapport au fait qu'elle lui a fait de la peine, qu'il nous ait vus, surtout.
Oui.
Et ça, elle a beaucoup, beaucoup de mal aussi à l'accepter. Et moi aussi, parce que je me suis coupable.
Je me rappelle très bien, vous l'avez exprimé à de multiples reprises, votre sentiment de culpabilité, que vous preniez d'ailleurs entièrement à votre compte.
Je le ressens encore. Et c'est vrai que. Que voilà, j'aurais tellement aimé une autre fin. Enfin, qu'il le sache autrement, c'est vrai que ça me fait beaucoup, beaucoup de peine. Aussi pour lui.
Vous savez, David, aussi, dans cette. On en avait parlé ensemble, vous aviez. Je me rappelle que vous aviez tendance à prendre en charge même la totale responsabilité de la chose. Bon, il y a vous, il y a votre amoureuse, mais vous savez, il ne faut jamais négliger aussi le rôle de la personne qui découvre. Alors, ce n'est pas forcément conscient, mais en général, quand un incident comme ça se produit, il y a le couple qui est découvert, mais il y a aussi celui qui découvre, dont on peut penser que son désir de savoir s'est mis en mouvement. Parce que vous savez, il y a, on connaissait l'expression, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne peut pas voir. Quelqu'un qui ne veut pas savoir, il ne met pas en mouvement l'attention aux signes, éventuellement les recherches. Donc, vous savez, ça s'est produit là, mais contre le désir de savoir de quelqu'un, on ne peut pas faire grand-chose. Quand il y a un conjoint... Voilà. Donc je crois que là, c'est une situation qui s'est vraiment formée à trois. Et c'est une responsabilité à trois, même si ce n'est pas dans la même position.
C'est clair. Oui. C'est clair. Donc, oui, elle m'a dit qu'elle allait se faire aider. Et puis, je pense que pour moi aussi, ça me fera du bien, également. Ces rendez-vous, ces séances-là, je pense que pour moi aussi, ça me fera du bien. Je crois que je vais proposer à elle.
Oui.
Mais bon, je pense que ça va être un peu pour tous les deux.
Qu'est-ce que vous avez envisagé donc pour ceux qui nous écoutent, on rappelle qu'on avait parlé, vous et moi, de la possibilité de voir un thérapeute.
C'est ce qu'on va faire, oui.
Ouais. Vous allez aller le voir à deux?
Oui.
Ah, c'est formidable. C'est bien pour vous deux.
Oui, oui, parce que je pense que j'en ai besoin aussi. Et puis j'ai besoin d'entendre un peu, voilà, ce que peut-être elle dira d'autres choses différentes à cette personne qu'elle peut le dire à moi. Enfin, je pense qu'elle se libérera peut-être un petit peu plus encore. Et,
vous avez déjà une expérience de thérapie, David, ou c'est la première
fois ?
Non. D'accord. Donc en fait, ce que vous dites est très juste, c'est que vous allez apercevoir que ce qu'on dit dans une séance, on ne s'y attend pas. On ne sait pas ce qu'on va dire et parfois jaillissent des choses qui nous étonnent nous-mêmes, qu'on ne s'était même pas dit à nous-mêmes. Donc là, vous avez raison quand vous dites que peut-être des choses vont émerger de son côté à elle, du vôtre.
Il peut y avoir des bonnes surprises comme des mauvaises surprises.
Des mauvaises... Je ne vois pas des mauvaises surprises liées à votre couple. Il me semble que ce qui peut émerger, c'est par exemple une douleur encore très aiguë dans le deuil avec sa fille, ou ce qui peut émerger, c'est des émotions très fortes liées à la scène que vous avez vécue quand vous avez été surpris par le mari.
Ça c'était horrible. Enfin, franchement, ça, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à s'en remettre l'un comme l'autre. C'est vrai que... voilà. Il a dû, d'ailleurs, lui-même, a dû voir un psychologue pour ça. Tellement il a été choqué.
Choqué. Et,
mon Dieu, que je le comprends. Voilà, j'aurais été à sa place, c'était pareil, quoi. Et voilà, il m'a dit qu'il s'est fait encore soigner, même, ça va faire quasiment un an et demi maintenant. Et il a encore cette image, quoi, tout le temps.
Là aussi, vous savez, c'est complexe ce qui se passe et ce qui nous amène à savoir... Effectivement, sur le plan conscience, il a été très choqué. Mais encore une fois, on ne sait pas à quel point son désir de savoir avait pu se mettre en mouvement. Et peut-être qu'une part inconsciente de lui désirait faire cette épreuve de vérité pour que ça rebatte les cartes de sa vie. Parce que son couple avec sa femme, donc votre amoureuse, son couple avec sa femme était dans l'impasse. Ce couple tient bon, peut-être sur différentes choses ou différents souvenirs, mais en tout cas, il tient sur un deuil. Et peut-être que de lui aussi sentait qu'il était dans l'impasse et qu'il y avait quelque chose de sans issue.
C'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle m'a dit quand je suis arrivé, dans sa vie. C'était un couple qui était juste pour le travail. Voilà, elle faisait juste le travail, les enfants. Voilà, c'était la routine, quoi. Donc, il n'y avait plus de sortie déjà, il n'y avait plus de tout ça quoi, déjà, quand je suis arrivé. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'elle m'a dit oui, forcément. Donc il y avait peut-être quelque chose qui n'allait déjà pas. Mais c'est vrai que voilà, et là, vu que comment ça s'est passé, voilà, vu la fin, et qu'il a vu, voilà, il lui facilite pas la vie quoi, par rapport au divorce. Quoi. Il lui fait aucun cadeau, aucun.
Ceci étant, le fait qu'il soit lui en thérapie, ça peut beaucoup humaniser et adoucir les choses au moment de la séparation, parce que la thérapie, ça invite évidemment à réfléchir et ça évite tout ce qui est de l'ordre du passage à l'acte, c'est-à-dire les gestes impulsifs, violents, les décisions à l'emporte-pièce. Tout ça est mis en question en thérapie et ça permet souvent d'arriver à des solutions plus élaborées. Je vois que du bon à ce que. Enfin, c'est une bonne nouvelle que lui soit suivi aussi.
J'espère vraiment que voilà, ça va nous aider à nous sortir un peu de ça parce que, bon, et la faire avancer, quoi. Parce que c'est pas trop. Voilà, c'est plus facile à vivre, quoi. Enfin, c'est plus très vivable, cette situation-là, quoi.
Et vous avez un beau projet de vie ensemble. Enfin, c'est un projet d'amour. Donc, c'est aussi honorer votre amour que de le libérer de toutes les ombres qui pèsent. Donc l'ombre du deuil, l'ombre de ce moment terrible où vous avez été terrible, surpris. Terrible. Parce que bon, c'est terrible pour lui, mais c'est terrible pour vous aussi. C'est une intimité violée.
Et de vivre encore avec lui dans la même maison, ça ne l'arrange pas non plus. Elle y pense tout le temps.
Bien sûr.
Elle y pense tout le temps.
Bien sûr.
Je pense que de changer de décor, ça lui ferait aussi du bien. Quoi. Voilà.
Vous êtes allé très vite, David, pour lui parler et pour choisir un thérapeute et pour prendre rendez-vous.
Ah oui. Oui, bah, je vous ai appelé, c'était quand jeudi, je crois.
Oui, oui.
Dès le vendredi, je lui en ai parlé.
Et là, vous voyez, dans la façon dont ça s'est passé, vous n'aviez pas besoin de preuves, mais ça vous donne un éclairage supplémentaire sur la qualité de votre dialogue. Et votre amoureuse vraiment vous fait confiance et elle n'a pas mis longtemps à saisir l'occasion de se confier à vous sur ce deuil, sur ce qui se passe avec son mari, et elle n'a pas mis longtemps non plus à consentir à faire une séance avec vous. Ça, c'est vraiment une preuve de confiance.
J'ai surpris qu'elle me dise oui aussi vite.
Mais oui.
Ça m'a surpris beaucoup.
Oui.
Mais je pense qu'on en a besoin. Enfin, qu'elle en a besoin aussi, que sans qu'elle en a besoin. Mais elle m'a dit oui tout de suite, oui, quasiment, oui.
Ouais. Et là, vous allez vivre quelque chose de fort parce que des séances ensemble, donc c'est encore une autre intimité partagée. Vous allez écouter la parole qui jaillit d'elle consciemment, mais aussi d'inconscient, ce qu'elle n'a pas prévu de dire. Vous allez faire pareil pour elle. Donc, c'est une autre forme d'intimité partagée. Je pense qu'il n'y a aucune raison de vous en inquiéter pour ce qui concerne votre couple. Peut-être il y aura des moments bouleversants parce qu'il peut y avoir des émotions fortes qui arrivent.
Ouais, mais quand... Je sais déjà que dès qu'elle va parler de sa fille, ça va être... Ça va être très, très dur.
Oui, mais ça fait aussi partie du partage entre vous et le fait que vous puissiez l'accompagner dans ce deuil, ça va aussi faire partie de ce qui va vous lier pour l'avenir.
Oui, je pense aussi.
David, vraiment merci de nous avoir donné de vos nouvelles. Je suis heureuse pour vous, heureuse pour elle. Et puis, je pense que aussi vous êtes, bon, si ce thérapeute vous convient, et si c'est pas lui, ce sera un autre. Mais
bien sûr.
Je pense que c'est important de se sentir bien. Mais je pense que vous allez pouvoir faire une belle expérience.
Je pense aussi, oui.
Eh bien, bel été, bonne continuation David, et n'hésitez beaucoup, pas à nous donner encore de vos nouvelles si vous le souhaitez.
D'accord.
Bon, portez-vous bien. Et c'est la fin de Parlons-nous pour ce soir. Vous nous avez emmenés dans des sujets de vie très différents, le coup d'arrêt dans une vie professionnelle pour une vie de musicien, le burn-out parental, un sujet si important pour les femmes en particulier, mais aussi les hommes, un accident de voiture qui a créé une réaction traumatique, une réaction tout à fait normale, et les excellentes nouvelles de David qui nous a rappelé alors que nous l'avions entendu la semaine dernière. Eh bien, sur ces bonnes nouvelles, je vous retrouve demain en direct dès 22h. Je vous invite à vous appeler quand vous le voulez le numéro de Parlons-nous 09 69 39 10 11. Si vous exprimez à l'antenne vous semble difficile, vous verrez, c'est très simple. Le premier pas est à faire et ensuite, vous vous laissez simplement guider. Je vous souhaite une très douce nuit.